Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, jusqu'à 20h,
le monde tel qu'il est.
Thomas Soto.
Le monde tel qu'il est, qui va se bouger un peu ce soir. Hein. Avec vous, Pascal Canu, bonsoir. Vous êtes prof d'EPS, un prof de sport dans un lycée du Val-de-Marne. Ça fait 31 ans que vous enseignez le sport. Vous m'expliquerez, moi j'ai jamais réussi à monter à la corde, vous m'expliquerez comment il faut faire. Avec nous également, Claire, vous êtes maman d'un ado de 18 ans, c'est
Oui.
Bon, c'est presque un petit adulte. Hein.
Mm-hmm.
Son sport préféré, c'est le jeu vidéo.
Exactement.
Voilà, bon, on va voir ce qu'on peut faire pour lui avec la prof de sport. Marie-Estelle est avec nous, Marie-Estelle Dupont, psychologue, clinicienne, psychothérapeute et auteur. Bonsoir Marie-Estelle.
Bonsoir Thomas.
Et puis nous sommes en ligne avec Carla. Carla, vous avez 17 ans. Bonsoir Carla, vous êtes lycéenne à Nice.
Bonsoir.
Le mot du jour.
Le mot du jour, c'est pas bonsoir, c'est sport ou
okay.
Peut-être... Ah mais restez avec nous. C'est sport ou c'est peut-être flemme. Tiens, écoutons peut-être Casimir pour commencer.
Casimir, mon vieux, ça ne peut plus durer. Mais enfin, tu es de plus en plus mollasson. Nous avons donc décidé qu'il fallait que tu fasses du sport pour retrouver la grande forme.
Je veux bien, François, mais quel sport ?
Mais quel sport ? C'est la journée nationale du sport scolaire, figurez-vous. Et pourtant, comme nous vous le révélions ce matin avec Isabelle Langer dans la matinale d'Yves Calvi, les jeunes ne sont pas vraiment en grande forme. Hein.
1 minute 60 secondes, c'est le temps qu'il faut en plus aujourd'hui à un enfant pour courir un 800 mètres. En 1971, il bouclait 2 tours de stade en 3 minutes. Aujourd'hui, il lui en faut 4.
En 50 ans, les ados, les 7-18, ont perdu 25% de leur capacité physique. Pascal, madame la prof de sport, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ben nous travaillons quand même, hein. Pourtant nous sommes à fond, mais c'est vrai que les élèves bougent moins, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont la flemme de beaucoup de choses. Alors ça sont des généralités, hein. Nous avons
mais vous le constatez,
forcément
vous,
des élèves, mais oui, nous constatons une vraie baisse au niveau du travail en endurance,
ouais.
Une vraie baisse au niveau de la motricité.
Ça veut dire quoi ? Ils courent moins vite
Ils courent moins vite, mais en fait, ils ont surtout, je trouve, un problème avec l'effort, la notion d'effort. Et la notion de découverte. En fait, il y a beaucoup de choses où, quand ils courent, par exemple, quand les effets physiologiques ouais. sur le corps, ce qu'ils ressentent, ça leur fait peur parce qu'ils n'ont jamais ressenti ce genre de situation. Et du coup, ils sont dans l'inconnu. Ça les stresse, ça les renferme sur eux-mêmes, et du coup, ils ne sont pas en réussite.
Alors ce soir, c'est un peu une réunion parents-prof. La parente, c'est vous, Claire, avec votre enfant de 18 ans.
Oui.
Vous confirmez qu'il ne bouge pas ?
Oui, la flemme, elle arrive. Alors moi, je vois ça un peu à partir de la quatrième.
Ouais.
C'est-à-dire, pour moi, c'est quand même beaucoup lié à la puberté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où ils se mettent à dormir davantage.
Ça, c'est normal, c'est bien d'ailleurs. Non
ouais, besoin, ouais. Mais tout ça, pour moi, ça va un peu ensemble. Donc, ils se mettent tout d'un coup beaucoup plus sur le lit, en fait.
Ouais.
Soit pour dormir, soit pour pas dormir du tout. Et faire juste rien. Enfin, en tout cas, beaucoup plus allongé tout d'un coup. Et quand bien même on a mis en place des règles à la maison, etc., c'est vrai qu'elle bascule un peu à ce moment-là.
Marie-Estelle, c'est nouveau ça, l'adolescent qui s'allonge sur son lit, qui veut faire rien.
Ils ont besoin de ce temps où ils glandent, parce que ça permet de développer aussi l'imaginaire et que la suractivité, enfin l'oisiveté est mère de tous les vices, mais la suractivité est mère de la bêtise, moi je pense. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une démotivation, effectivement, par rapport à ce que vous disiez sur l'effort. Quand on ne connaît pas quelque chose, on a des stratégies d'évitement beaucoup aujourd'hui chez les adolescents. Bon, le sport et le manque de sport est lié à une démotivation qui, pour moi, est très corrélée aussi à la surconsommation de sucre. C'est-à-dire qu'au niveau cérébral, le fait de consommer beaucoup d'aliments à base de sucre, lent ou rapide, et encore plus rapide, fait baisser le taux de motivation dans le cerveau, alourdit le corps, alourdit l'esprit, et on a moins envie.
Vous confirmez, Pascal ?
Alors, je ne sais pas l'analyser de cette manière-là, mais effectivement, il y a ce problème de malbouffe, hein, quand même, où les élèves vont entre midi et deux, enfin, ils ont une heure pour manger, ils vont vite chercher un sandwich,
un panini,
un tacos, un je ne sais quoi. Et parce que, encore une fois, c'est facile. C'est à leur portée, hop, on mange vite fait, et puis après...
Et puis il y a un autre aspect, il y a l'aspect de la transmission aussi, c'est-à-dire que je pense que pour les adolescents, c'est plus facile d'avoir une routine sportive s'ils ont des parents sportifs. Et là, on a un travail, nous, en tant que parents, à faire. Moi, je l'observe autour de moi, dans ma patientèle et dans mes proches. C'est plus rare de se mettre à être très sportif, à être très curieux du sport si nos parents ne nous ont jamais emmenés sur un terrain de tennis, si papa ne va pas courir une fois de temps en temps. Voilà, donc je pense qu'en tant que parent, c'est chouette de prendre le temps d'emmener son enfant à la piscine, au rugby, etc.
Oui, ouais, bien sûr. Mais moi, en l'occurrence, je peux voir comment ça se passe à la maison. Notre fils, il nous a toujours vu...
En faire, et lui, il n'en fait pas. Oui.
Voilà, en faire, il n'en fait pas. Et
non,
en fait,
c'est
il est juste...
Bien c'est sûr. Pas systématiquement
ah non, mais c'est évident. Et bien sûr, les enfants sont différents aussi. C'est-à-dire qu'il y a ma fille, mon fils, rien à voir.
Alors, on va écouter quelques jeunes qui nous parlent de leur rapport au sport. Tiens, écoutons ça.
Après une journée, on n'a pas trop envie souvent d'aller au sport, donc ça devient plus une contrainte qu'une activité. Je fais de la danse puisque ma mère, elle m'a forcée. Bah oui, les cours aussi et la flemme aussi un peu.
La flemme, car là, vous sentez concernée, vous qui êtes lycéenne à Nice, vous sentez concernée par cette flemme? C'est quoi votre rapport au sport, vous?
Personnellement, je fais du sport du coup avec les cours de sport normalement et je fais de l'escalade en dehors, mais pour revenir ce que sur disait une lycéenne, c'est vrai qu'on nous conseille de faire du sport pour penser à autre chose que les cours. Sauf que la semaine, on a beaucoup de cours à gérer. Puis après, on a du retard qui a été accumulé pendant le confinement avec une réforme qui fait qu'on doit boucler un programme rapidement. Du coup, c'est compliqué, etc. Et du coup, on n'a pas forcément le temps après de faire du sport. Et certaines personnes peuvent préférer rester avec leurs amis.
Mais c'est une priorité pour vous ou pas, Carla, de faire du sport? C'est important ou c'est ce qu'on fait quand il reste du temps?
Alors, bien sûr, le fait de pouvoir faire du sport, c'est bien. De pouvoir faire du sport, des activités physiques régulièrement. Et c'est sûr que c'est bien dans le cadre du collège et au lycée. Parce que... après, en dehors, les lycéens et lycéennes n'ont pas forcément les moyens de faire du sport. Du coup, c'est bien, ça leur permet de pouvoir en faire. Sauf qu'on remarque que le sport, ça reste fait dans les établissements qui sont privés, c'est-à-dire le sport avec un vrai suivi. Ça va être des personnes qui ont plus de moyens et du coup des facilités pour pouvoir le faire.
Ah. Oui, et je pense que...
Aussi... Des moyens. Oui, allez-y, finissez,
Carla. Je peux juste finir.
Je vous en prie.
On sait qu'il y a aussi des discriminations du coup dans le sport en général, par exemple le sexisme, la grossophobie ou la transphobie. Et du coup, en fait, par exemple, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des vestiaires qui soient mis pour les personnes qui sont trans et qui sont dysphoriques, qui ont des soucis pour aller à la piscine, par exemple. Et après, globalement, il y a plus de personnes qui peuvent se sentir gênées en fait en cours de sport. Et pour ça, on revendique que il faille plus valoriser la performance au sport, mais plutôt tous les efforts qui peuvent être faits tout au long de l'année, comme dans toutes les autres matières d'ailleurs.
Oui, je pense que vous soulignez deux choses très importantes, c'est la notion du temps et la notion de l'argent. Et en fait, à partir du moment où on sera dans un pays où le sport est à faire sur les heures de loisirs, il y aura beaucoup d'inégalités et ce sera difficilement accessible pour des gens qui ont du mal à se motiver ou à s'organiser. Moi, je comprends pas qu'en fait, on soit le seul pays en Europe où il y a 2 heures de sport, et je pense que madame aura beaucoup à dire là-dessus, au lycée, alors qu'en fait, c'est une question d'hygiène psychique et physique d'avoir une activité dès le plus jeune âge. Tous les jours. Pour moi, j'aimerais que dès la maternelle, les enfants aient de la motricité le matin et qu'il y ait du sport tous les jours parce que c'est indispensable pour prévenir les maladies mentales et les maladies physiques.
Pascal ?
Alors, pour vous répondre, effectivement, plus il y a de sport et plus il y a de pratiques, et évidemment, on serait heureux. Maintenant, même avec ce que l'on fait actuellement, enfin nous en lycée on a 2 heures, ce qui serait bien c'est effectivement que la pratique de l'activité sportive et la mise en situation se fasse dès le plus jeune âge pour que ça puisse leur donner une culture du corps, une culture du sport et une culture de l'effort.
Voilà.
Et ça c'est important. Et pour rebondir sur ce que disait la jeune fille,
Carla.
Oui, effectivement, à l'époque de l'adolescence, les jeunes ont aussi envie d'avoir une vie sociale, et pour eux, c'est important. Oui, D'accord. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent faire l'effort d'aller faire un peu de sport.
Oui, et puis ça fait du bien. Et ça fait du bien.
Et ils auront des rencontres.
On peut faire du sport avec les copains.
C'est ça. Ça doit rester un moment de plaisir.
Voilà, le sport, il
non, mais le sport déborde le sport, quoi. C'est l'apprentissage des relations entre les sexes, c'est l'apprentissage de la vie en société, du respect des règles, du respect de soi-même, de son corps, de son esprit dans son corps, du temps, etc. Et puis ça préviendrait beaucoup de maladies.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je suis désolé parce qu'on vient d'apprendre malheureusement la disparition de Juliette Gréco, qui est morte à l'âge de 93 ans. Et on va lui rendre hommage juste après la pub dans ce numéro d'RTL Soir. Merci à vous d'avoir été avec nous et pardon pour cette interruption. On a entendu le message que vous voulez faire passer et tout de suite quelques notes.
Thomas Sotto,
RTL Soir, édition spéciale.
On a appris il y a quelques instants la disparition de Juliette Gréco, icône de la chanson française qu'on connaissait aussi pour son interprétation de Belphégor à la télévision. Juliette Gréco avait 93 ans, c'est sa famille qui annonce à l'agence France Presse sa disparition. Elle s'est éteinte entourée des siens dans sa tente aimée de Ramatuel. Sa vie fut hors de commun. Ce sont ces quelques mots qui ont été publiés il y a quelques instants. Hommage à Juliette Gréco tout de suite avec Anthony Martin.
C'est une vie en liberté qui s'éteint. Refus des contraintes, fin des tabous, droit à la libre parole. Juliette Gréco, l'impertinente, aura milité sans cesse.
Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus ?
Un sacré caractère. Juliette Gréco, fille de résistant, toute jeune emprisonnée à Fresnes par la Gestapo, n'a pas 20 ans lorsque, déboussolée et révoltée par la guerre, elle choisit sa famille de substitution, le Tout Paris, qui défile rive gauche dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés. Ce monde devient le sien et dès 1945, Gréco devient l'image de la jeunesse. Une allure provocante et un style à part. Pantalon noir, cheveux longs lâchés, des yeux de biche, un regard charbonneux. « Voulez-vous chanter, Gréco ?» lui demande Jean-Paul Sartre après un dîner. Il lui présente une liste de poèmes. Elle choisit du Raymond Queneau.
« Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison. »
Gréco, l'égérie, a fait tourner la tête des hommes et des femmes. Une passion brûlante avec Miles Davis, une amitié amoureuse avec Françoise Sagan. Et Gréco, la muse, a inspiré les plus grands auteurs. Prévert, Trainé, Aznavour, Brassens et Léo Ferré, qui lui offre la très sensuelle Jolie Môme.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma Jolie Môme.
Dans les années 60, Juliette devient la Gréco. Serge Gainsbourg lui offre la javanaise.
À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour ? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Elle triomphe dans Belphégor, la série télévisée de Claude Barma, épouse Michel Piccoli et chante gaiement les amours difficiles.
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut ?
Et avant le « Comme ils disent » de Charles Aznavour, Juliette Gréco chante « Les pingouins ».
Les petits pingouins boivent du bon vin dans de petites bouges, les petites pingouines.
Puis Gréco fait scandale en 1967, deux mois avant la légalisation de la pilule. Elle est la femme qui commande.
Déshabillez-moi avec délicatesse, en souplesse.
La chanson était une œuvre théâtrale pour Juliette Gréco, d'où ses performances sur scène et son admiration pour Jacques Brel, qu'elle a chanté dans un album sorti en 2013, accompagnée par son époux depuis 1989, Gérard Joannès, le compositeur et pianiste de Brel. Ces dernières années, Juliette Gréco avait encore su séduire de nouveaux paroliers, Abdelmalik, Miossec ou Benjamin Biolay. Gréco a épousé le XXe siècle et flirté avec le XXIe.
Il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui. Quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi à vivre au jour le jour. le moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles. Mais à la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois.
Juliette Gréco, qui s'est donc éteinte à l'âge de 93 ans, ses yeux de chat surlignés d'eyeliner, ses tenues noires, son élégance folle. Elle avait entamé une tournée d'adieu en 2015, une tournée qui s'appelait très simplement Merci. À l'époque, elle était fatiguée, mais elle voulait, elle tenait à revenir sur tous les lieux qui ont marqué sa très longue carrière. Une histoire incroyable sur laquelle on va continuer à revenir après une courte pause et surtout après avoir écouté encore Juliette Gréco qui chante, qui chantait. Elle était comme elle était, elle chantait « Je suis comme je suis ».
RTL Soir, Thomas Soto.
Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres.
La voix douce, élégante de Juliette Gréco. Juliette Gréco qui est partie aujourd'hui. Elle avait 93 ans, on l'a appris il y a quelques minutes à peine. Elle s'est éteinte, entourée des siens dans sa maison de Ramatuelle. Éric Jean-Jean, bonsoir.
Bonsoir, ça va.
On a quand même l'impression que... Ah bah c'est une partie du patrimoine là qui s'en va avec Juliette Gréco. Hein.
C'est une partie de la culture en fait. Hein. Et de cette fameuse culture de Saint-Germain-des-Prés, vous savez Thomas, elle est une des figures emblématiques de Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire que tout de suite, alors d'abord pendant la Seconde Guerre mondiale, elle se retrouve à Saint-Germain-des-Prés suite à un épisode dramatique de sa famille.
Ses parents sont déportés.
Ouais, sa sœur est arrêtée par la Gestapo, sa mère et sa sœur seront battues puis torturées. Elle non, parce qu'elle est trop petite et elle se retrouve dans la rue comme ça, dans les années, au milieu de cette Seconde Guerre mondiale, et c'est justement là où elle va trouver refuge à Saint-Germain-des-Prés, et elle va créer le fameux look de Saint-Germain-des-Prés, Thomas, parce que elle a rien pour s'habiller, elle est toute maigrichonne, et on lui file des fringues de garçon.
Et c'est de là qu'elle tenait
ce look. Et c'est de là
que
vient son look en noir, que vient son look à la garçonne, ce look qui a été après développé par des dizaines d'autres personnes, mais ça vient de là, ça vient de ce drame qui fait que cette gamine, parce que son étude se retrouve seule dans les rues de Saint-Germain-des-Prés.
Et c'est vrai, quand on l'entend chanter, on la voit, hein, Juliette Gréco. Et nous sommes en ligne avec Yves Régnier. Bonsoir Yves Régnier.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous sur RTL. Alors vous, je crois que vous avez quasiment fait vos débuts avec elle dans le feuilleton Belphégor à la télévision, hein ?
Absolument.
Elle était comment, Juliette Gréco, vous qui l'avez connue ?
Écoutez, les souvenirs que j'ai d'elle, c'était une femme qui était très imposante. Enfin, moi, elle m'impressionnait beaucoup parce que j'étais un jeune acteur, hein. je devais avoir 22 ans, 23 ans. Mmh. Donc, voilà,
c'est dans les années 60, hein, tout ça. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, Belphégor, c'est, pour vous dire très exactement, c'est 63. Ouais.
Ouais. Première diffusion 65 même, je crois, pour être tout à fait précis. C'est un feuilleton qui a marqué vraiment. Il y avait 10 millions de téléspectateurs à l'époque et c'était dans une France de 48 millions d'habitants. Donc c'était incroyable le succès de Belphégor.
Ah bah oui, moi je peux vous le dire, j'étais au théâtre, hein, et au fur et à mesure qu'on avançait dans le feuilleton, c'était un par semaine, une diffusion par semaine, et il y avait de moins en moins de spectateurs, et à la fin on a été obligé de rembourser les quelques spectateurs qu'il y avait parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux. Quoi.
Elle était impressionnante ou pas? Parce que quand on la regardait chanter, on avait toujours peur d'aller la déranger, non, Juliette Gréco?
Non, elle était assez... c'était quelqu'un de bienveillant, je trouve. C'était quelqu'un de bienveillant, mais qui était impressionnant. Oui, elle impressionnait. Moi, si vous voulez, vous me parlez de Juliette Gréco. À ce moment-là, j'ai 23 ans et je vois cette femme qui a déjà quand même tourné quelques films, notamment qui a tourné aux États-Unis, etc. Et tout ça, bon, moi, c'est vrai que ça m'impressionnait. Ouais, c'est vrai.
Ça m'a impressionné. Merci en tout cas, Yves Régnier, pour cette réaction en direct sur RTL. Quelques notes avec nous. quelle est votre réaction? Vous aimez passionnément la musique. Quelle est votre réaction à l'annonce de la disparition de Juliette Gréco ce soir?
C'est évidemment une immense figure de la chanson française, de l'art, de la culture française qui disparaît aujourd'hui. Ce que j'aime, ce que j'aimais chez Juliette Gréco, c'est qu'elle cassait tous les codes. On enferme maintenant la culture dans des cases. Si on fait de la chanson, on ne fait pas de l'opéra. Si on fait du cinéma. Et justement, elle était partout. Elle était partout avec les plus grands noms. C'est une sorte de kaléidoscope de célébrités qui l'entourent dans le cinéma, dans la chanson. Elle participait aussi à un mouvement culturel, ce mouvement culturel de Saint-Germain-des-Prés qu'on a appelé l'existentialisme. Mmh. Elle était copine aussi bien avec Jean-Paul Sartre qu'avec Boris Vian, qu'avec évidemment aussi tout, ça a été une grande amoureuse. Et elle a vraiment eu dans sa vie des hommes tout à fait extraordinaires. Mais je retiendrai peut-être, moi qui aime l'opéra,
oui.
On la voit comme une chanteuse. Elle a été la première chanteuse française à chanter à la Philharmonie de Berlin. Et c'est ça peut-être qui symbolise pour moi Juliette Gréco, c'est qu'elle était universelle dans sa conception de l'art et de la vie d'une artiste.
Vous l'aviez rencontrée ou pas, vous, Roselyne Bachelot?
Je l'ai rencontrée incidemment, mais je ne la connaissais pas vraiment. Mmh. Elle est restée pour moi cette icône absolue. Et puis, je peux dire mon coup de cœur, c'est évidemment la chanson « Déshabillez-moi ».«
Déshabillez-moi », on va en écouter quelques notes tout de suite de « Déshabillez-moi ».«
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. » Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Roselyne Bachelot, pourquoi elle vous touche tellement cette chanson « Déshabillez-moi » ? C'est vrai qu'elle est, elle a tout, elle est à la fois joyeuse, enlevée...
Juliette Gréco, elle fait de tout un chef-d'œuvre. Elle a fait de sa vie un chef-d'œuvre. Et cette chanson transgressive, parce que au moment où elle l'a chantée, c'était une chanson dite osée. C'est finalement le symbole de cette casseuse de code, de cette casseuse d'image. Et finalement, en acceptant parfois de casser son image, elle en a construit une encore plus belle.
Merci beaucoup, Roselyne Bachelot, pour cette première réaction à la triste disparition de Juliette Gréco. Éric Jean-Jean, cette musique, Déshabillez-moi, vous avez beaucoup d'histoires à nous raconter dessus. Allez-y.
Il y a beaucoup de choses à raconter autour de cette chanson. D'abord, c'est un homme qui l'a écrite, cette chanson, pour une effeuilleuse dont il était amoureux. Évidemment, le temps qu'il finisse la chanson, l'effeuilleuse avait disparu et la chanson rentre dans les tiroirs. Et c'est celle qui a composé la musique qui la propose à Gréco, un peu en désespoir de cause. Et Gréco décide de la faire et de rajouter le fameux déshabillez-vous à la fin. Et vous, déshabillez-vous pour la rendre un peu moins agressive. Mais il faut la remettre dans le contexte. On est dans la France du général de Gaulle, celle du devoir conjugal. Et donc, donner des ordres en disant à l'homme « Déshabillez-moi, mettez-y du doigté », je veux dire, l'allusion est complètement directe à la caresse féminine. Cette chanson, elle est terriblement osée dans son époque. Et elle avait raison, Roselyne Bachelot, de dire qu'elle est transgressive, parce que cette chanson, c'est vraiment le symbole de ce côté transgressif de Juliette Gréco.
Et elle faisait de tout un chef-d'œuvre, hein, c'est ce qu'a dit aussi Roselyne Bachelot.
Ni un geste, ni trop lent, ni trop leste sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis
C'est vrai qu'elle y va quand même. Hein.
Ah non, mais elle y va.
Elle y va quand même. Dans un instant, restez avec nous. On va l'entendre nous parler et parler à Steven Bellery. C'est une interview qu'elle lui a accordée il y a quelques années pour RTL. Juliette Gréco ce soir avec nous encore.
Allez vite. Sachez me posséder. Me consommer. Me consumer. Déshabillez-moi. RTL Soir.
Perdre la force, la voix, et devenir très vilaine. Il y a le fait que j'ai 88 ans et que je n'entends pas perdre ni ma dignité, ni mes facultés. Je ne vais pas infliger un spectacle navrant aux gens. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que les gens me regardent et se disent « Oh là là, il ne faut pas faire pitié. Je ne peux pas compter sur demain. » Oui, parce que je ne voudrais pas me regarder dans la glace et pleurer. C'est une sorte de mort. C'est une autre vie. On abandonne une vie pour une autre.
Est-ce que vous avez peur d'oublier vos chansons après la scène, après cette tournée?
Sûrement pas. Pourquoi je les oublierais? Ce sont mes copines les plus sûres. Ce sont mes amies les plus fortes, les plus sincères, les plus puissantes.
Voilà pour Juliette Gréco qui parlait en 2015 au micro de Stephen Bellery sur RTL. Éric Jean-Jean, elle avait aussi été à la mode auprès des plus jeunes. Elle avait la cote. Ouais, hein,
elle avait vraiment la cote. Moi, je me souviens d'une soirée de lancement d'un album que la jeune génération lui avait écrit. Il y avait des chansons d'Olivia Ruiz, de Benabar, de Christophe Miossec, qui tous évidemment fantasmaient de faire chanter la grande Juliette Gréco, et en fait c'est un album plutôt réussi. Voilà, c'était le début des années 2000 avec cette nouvelle vague de la chanson française.
La grande Juliette Gréco qui est partie donc dans sa...